Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous, journée historique, près de 4 millions de Français dans les rues pour dire leur horreur du terrorisme et leur attachement à la liberté d'expression, on en a beaucoup parlé dans les éditions. 4 millions de Français et une cinquantaine de chefs d'État bien déterminés à tout faire pour renforcer la sécurité. En marge de la marche républicaine, les ministres de l'Intérieur européens et leurs homologues américains et canadiens ont évoqué le renforcement des contrôles aux frontières et la prévention de la radicalisation. Un sommet international aura d'ailleurs lieu à la Maison-Blanche, à Washington, sur ce sujet le 18 février. Y a-t-il eu des failles dans le dispositif de renseignement français au vu du parcours des trois terroristes responsables des attaques contre Charlie Hebdo et le magasin Kasher? Pour le député français Olivier Falorni, rapporteur d'une commission parlementaire sur la prévention du radicalisme religieux, il faut donner plus de moyens aux renseignements généraux.
Je dis que nous avons ces dernières années affaibli les renseignements généraux. On considérait peut-être que ce travail de terrain, de proximité, de fourmi, qui ne générait pas des statistiques brillantes, mais qui était essentiel pour la connaissance de ces réseaux, a peut-être été négligé. On a une tendance en France à distinguer les services de renseignement intérieurs et extérieurs. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de distinction à faire et que l'internationalisation du terrorisme, le fait que certains jeunes partent et reviennent, se forment à l'étranger, sur des territoires où d'ailleurs les Français, les militaires français, sont en opération militaire. Tout cela fait que nos services ne doivent plus distinguer ce qui relève du renseignement intérieur et du renseignement extérieur. Et cela passe aussi par une coopération plus forte avec nos ambassades, avec nos consulats, parce que nous devons avoir vraiment un échange avec tous les pays arabes avec lesquels nous avons des relations diplomatiques, parce que nous avons besoin d'une coopération avec les services de renseignement. Je pense en particulier, mais parmi d'autres, à la Turquie. Nous avons vraiment besoin d'un travail en commun avec la Turquie, qui est malheureusement un des carrefours en Europe pour le départ vers le djihad.
La France n'a pas du tout pris la mesure de la nécessité de déradicaliser ces jeunes djihadistes partis en Syrie ou en Irak.
C'est un phénomène dont nous avons pris peut-être conscience un peu tardivement. Et je voudrais évoquer la question de l'incarcération. Parce qu'on voit bien qu'un certain nombre de jeunes qui sont interpellés, soit pour des affaires de droit commun, soit parce qu'ils tentaient de partir faire le djihad en Syrie ou en Irak, lorsqu'ils reviennent de Syrie et d'Irak, s'ils peuvent y aller, ils reviennent comme des bombes humaines et donc il faut savoir les traiter, les déradicaliser. Et je crois que la prison est la plus mauvaise des solutions, on le voit bien. Donc les prisons aujourd'hui sont presque des vecteurs de radicalisation dans certains endroits. Et je crois qu'on pourrait s'inspirer peut-être du modèle danois qui a créé des unités de déradicalisation où on porte une attention toute particulière à ces détenus pour faire en sorte qu'ils ne deviennent pas sur le territoire national des fauves qui auront été formés en Syrie ou en Irak pour tuer nos compatriotes.
C'est aujourd'hui les réseaux sociaux qui sont les principaux outils de radicalisation. C'est eux qu'il faut surveiller.
Oui, j'ai la conviction également que aujourd'hui, les filières djihadistes utilisent beaucoup les réseaux sociaux. On évoque la situation des deux frères terroristes qui ont assassiné lâchement à Charlie Hebdo des caricaturistes et des policiers. Leur itinéraire est, j'allais dire, un itinéraire ancien, c'est-à-dire qu'ils sont passés par des filières plus classiques, d'ailleurs qui étaient celles d'Al-Qaïda et non pas de Daesh, et qui sont passés par des rencontres avec un prédicateur dans le cadre d'une mosquée. Aujourd'hui, les phénomènes sont différents. La radicalisation ne se fait plus dans les mosquées, elle se fait sur les réseaux sociaux, par souci de discrétion et d'efficacité.
Concernant l'arsenal législatif, les États-Unis réclament depuis longtemps la création d'un fichier des voyageurs aériens. Le Parlement européen s'y est toujours opposé. Au nom de la liberté individuelle, est-ce que c'était une erreur ?
Il faut se poser la question. Et lorsqu'on est attaqué, lorsqu'on est en état de guerre, il faut savoir répondre par des armes démocratiques. Mais ça passe par la loi et peut-être effectivement par un fichier tel que l'avaient souhaité les Américains. Il faut effectivement que cette décision soit prise, non pas au niveau national, mais au niveau de l'Europe.
Olivier Falorni, député socialiste français. Justement, la question de ce fichier européen des passagers aériens sera sans aucun doute largement débattue au Parlement européen cette semaine. Le PNR, pour Passenger Name Record, c'est ainsi qu'on l'appelle, fait l'objet d'une vraie bataille législative depuis 2011. Les Américains et les Canadiens réclament l'échange de données. La Commission européenne souhaiterait aller dans ce sens, mais le Parlement, au nom du respect des libertés individuelle l'a toujours refusé. Cela va peut-être changer. À Bruxelles, Johanna Hauenstein.
Après le dégoût, la tristesse, la condamnation, les Européens s'interrogent sur les moyens à mettre en œuvre pour éviter une nouvelle attaque terroriste sur leur territoire. Pour Alain Lamassoure, eurodéputé français de centre-droit, le PNR européen, comme on l'appelle dans le jargon bruxellois, aurait peut-être permis d'éviter le drame à Charlie Hebdo. Ce PNR est en fait un projet de registre au niveau des 28 qui rassemblerait les informations dont disposent les compagnies aériennes sur l'identité des passagers.
S'agissant de lutter contre des terroristes qui vont se former à l'étranger pour revenir faire des attentats en Europe, il est évident que ce sont des informations vitales. Dans la tragédie de Charlie Hebdo, les deux frères avaient l'interdiction de voler aux États-Unis ou de prendre un vol qui les aurait amenés aux États-Unis, alors qu'ils pouvaient circuler librement et sans difficulté en France et en Europe.
À gauche, chez les écologistes et chez les libéraux, on est beaucoup plus réservé sur la question. Sophie In't Veld, eurodéputée centriste originaire des Pays-Bas, a d'ailleurs mené la bataille des opposants jusqu'à présent.
Il ne faut pas s'imaginer qu'avec toutes les données de tous les passagers, on n'a qu'à pousser un bouton sur l'ordinateur et on va avoir une liste de personnes avec des intentions terroristes, ça fonctionne pas comme ça.
Pour elle, ce système est trop intrusif. Il reprendrait en effet l'ensemble des informations communiquées lors d'une réservation sur l'identité de l'individu, sur le moyen de paiement utilisé, sur les habitudes de voyage de tous les passagers en provenance ou à destination de l'Europe. Et ces données seraient ensuite conservées pendant 5 ans. Sophie In't Veld exige des garanties au nom de la protection de la vie privée.
Les données sensibles comme effectivement religion, appartenance politique, conditions médicales par exemple, orientation sexuelle, ce genre de données ne doivent pas être échangées.
Faute d'accord pour le moment, les Européens avancent en ordre dispersé. Une quinzaine d'États a décidé de mettre en place son propre système au niveau national pour mieux identifier les voyageurs à risque. C'est le cas de la France. Depuis le 1er janvier, une unité spéciale rattachée au service des douanes peut avoir accès aux données des passagers en provenance ou à destination de l'Hexagone, 48 heures avant le départ du vol. Mais pour Alain Lamassoure, il est primordial de travailler à 28, sinon...
Sinon, les candidats terroristes ou les criminels choisiront de voyager à l'étranger en passant par le pays qui a le moins d'exigences. C'est aussi bête et aussi simple que cela.
Le sujet sera à nouveau débattu cette semaine à Strasbourg lors de la session plénière du Parlement européen. L'occasion de voir si les lignes ont bougé avec les événements tragiques dans l'Hexagone, notamment chez les socialistes français.
Tirer les leçons des attentats en matière de lutte contre le terrorisme, c'est désormais la priorité. Au Royaume-Uni, ce sont les attentats meurtriers de 2005 qui ont provoqué un sursaut national. À l'époque, 52 personnes avaient trouvé la mort dans les transports en commun à Londres. Un tournant pour le gouvernement britannique qui décide alors de traquer le tenant des discours islamistes les plus radicaux. Une certaine idée peut-être naïve du communautarisme avait vécu. C'est le reportage de Marie Billon à Londres.
Au Royaume-Uni, bien sûr, il y a eu un avant et un après 11 septembre. Mais ce qui a vraiment tout changé, ce sont les attentats dans les transports publics en 2005. Jusque-là, ou presque, les autorités savaient que certains prêcheurs, comme l'imam Abu Hamza de la mosquée de Finsbury Park, ou même des prédicateurs dans la rue, prononçaient des discours de haine contre l'Occident et appelaient très clairement à la violence. Mais ils n'étaient pas tous, en tout cas, pris au sérieux. Andrew Silk est spécialiste du terrorisme, professeur à l'University of East London.
À l'époque, le Royaume-Uni était régulièrement attaqué par l'IRA, les extrémistes irlandais, et ses efforts en matière de lutte contre le terrorisme se concentraient là-dessus. Donc, finalement, lutter contre des groupes et des individus qui ne blessaient personne, alors qu'un autre groupe multipliait les violences, ça ne valait pas la peine. Et puis, tout simplement, on pensait qu'ils en resteraient au stade du discours, mais pas qu'ils agiraient.
Jusqu'au début des années 2000, la liberté d'expression avait des limites, mais elles étaient très lâches. Et les attentats ont bouleversé la donne.
La législation a complètement changé. Par exemple, vous ne pouvez plus faire un discours en public et crier votre soutien à un groupe terroriste. C'est un délit. Ce n'était pas le cas dans les années 90. Des gens comme les prêcheurs extrémistes, Abu Hamza ou Abu Qatada, ne pourraient plus s'exprimer en public comme ils le faisaient.
Le gouvernement ne s'est pas contenté de s'attaquer aux incitations à la haine. Il a aussi annoncé un changement radical dans son modèle de société. C'est David Cameron, Premier ministre, qui a expliqué pourquoi lors d'un discours donné en Allemagne, à Munich, en 2011.
Nous avons permis l'affaiblissement de notre identité collective. Au nom de la doctrine du multiculturalisme d'État, nous avons accepté que les communautés vivent leur vie, chacune de leur côté, sans contact avec les autres. Nous avons même accepté que ces communautés vivant séparées aient des comportements contraires à nos valeurs. Cette tolérance naïve a donné l'impression que nous n'avons pas assez de choses en commun. C'est ce qui a pu faire que certains musulmans se sont sentis sans racines. En cherchant quelque chose auquel ils pouvaient appartenir, quelque chose auquel ils pouvaient croire, ils ont trouvé cette idéologie extrémiste.
Dans le Royaume-Uni d'aujourd'hui, le multiculturalisme existe toujours. Les différentes cultures n'ont pas été avalées par une identité britannique statique. C'est l'État qui a changé son attitude. Mohamed Amin est le président du Conservative Muslims Forum, la branche musulmane du parti de David Cameron.
L'idée clé que ce gouvernement a tenté de mettre en œuvre est la suivante. Pour être britannique, il faut partager certaines valeurs. La démocratie, l'état de droit, la tolérance et le respect, et la liberté d'expression aussi. Et il faut aussi parler anglais, parce qu'une langue commune ne peut que nous rapprocher.
Cela veut donc dire que le gouvernement va vérifier, chercher à savoir qui respecte ses valeurs et les prend à son compte, et qui les rejette et donc peut devenir dangereux. C'est à cet effet que le plan Prevent a été mis en place. Les communautés, les mosquées et les institutions musulmanes sont passées au peigne fin par les services de renseignement pour savoir si leur ligne n'est pas hostile au Royaume-Uni. Et maintenant qu'il est devenu presque impossible de se radicaliser au sein d'un groupe ou d'une congrégation qui a pignon sur rue, ce sont les individus qu'il faut surveiller. Et là, ça se complique, selon le professeur Andrew Silk.
Le problème du plan Prevent, c'est que le plus petit acte suspect est criminalisé. Si vous visitez le mauvais site internet, vous pouvez finir en prison. Donc, certaines personnes qui ne seraient jamais passées à l'acte sont enfermées. De même, les autorités demandent aux familles de les prévenir s'ils voient que leur fils, par exemple, se radicalise. Le problème, c'est que si elles en parlent, leur fils ira derrière les barreaux, alors qu'elles voulaient juste que leur enfant soit déradicalisé.
À l'idée de ces familles qui ont peur d'aller parler aux autorités, Andrew Silk ne peut pas s'empêcher de penser que le gouvernement se tire une balle dans le pied, qu'il fait deux pas en avant et un pas en arrière.
Dans la lutte antiterroriste, il y a deux volets, le renseignement et la bataille pour les esprits et les cœurs. Le travail des renseignements, c'est identifier les gens dangereux et les empêcher d'agir. Et au Royaume-Uni, il y a eu très peu d'attaques. La dernière de grande ampleur, c'était 2005. Le reste était de plus petite ampleur. Donc le volet renseignement fonctionne, mais la bataille pour les esprits et les cœurs nous donne plus de fil à retordre.
A bit more troublesome.
En clair, le gouvernement s'est aliéné une bonne partie des musulmans. Bharath Kenesh travaille pour l'association Tel Mama, qui recense les agressions islamophobes, et il a l'impression que les musulmans sont devenus une cible facile.
Surveiller les musulmans et les mosquées, c'est une sorte de discrimination. Alors que prévenir des actes terroristes, c'est empêcher des personnes de s'adonner à des activités de plus en plus criminelles. Donc je pense qu'il faudrait plutôt forger un partenariat entre la communauté musulmane et le gouvernement, plutôt que de poursuivre cette approche paternaliste.
Comme dans toute démocratie, la stratégie du Royaume-Uni a ses failles. Selon les spécialistes de la lutte contre le terrorisme, 98% des complots sont déjoués, seuls 2% peuvent vraiment être menés à bien. La semaine dernière, le MI5, les services secrets l'ont avoué, ils ne pourront pas empêcher tous les attentats. Mais selon Andrew Silk, les groupes les plus organisés, parce qu'ils impliquent beaucoup de personnes, sont souvent ceux qui sont démantelés, et ce sont d'ailleurs les plus meurtriers. Mais il reste très difficile d'identifier les individus isolés et radicalisés, ceux qu'on appelle les loups solitaires.
Et à noter que l'imam britannique Abu Hamza a justement été condamné en fin de semaine dernière par la justice américaine à la prison à vie pour terrorisme. Il avait été extradé en 2012. Et pour notre chronique média, on part en Ukraine pour un tout autre sujet, la guerre médiatique qui sévit entre Moscou et Kiev. La chaîne de télévision Inter, russophone et russophile, qui est diffusée sur le territoire ukrainien, est désormais menacée de fermeture. En cause, la propagande anti-ukrainienne qui sévit, notamment lors d'une certaine émission spéciale diffusée le soir du Nouvel An. Pour en parler, on retrouve Sébastien Gobert à Kiev. En quoi cette émission spéciale du Nouvel An constitue-t-elle l'émission de trop pour les autorités ukrainiennes ?
Eh bien, il y avait des chanteurs et acteurs russes qui soutiennent ouvertement la politique impérialiste russe de Vladimir Poutine, à savoir l'annexion de la Crimée ou alors les actions des groupes séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. L'un de ces chanteurs, Yosif Kobzon, qui a 77 ans et surnommé par certains le Frank Sinatra russe, a même donné un concert de soutien à Donetsk en octobre dernier. Il est depuis persona non grata en Ukraine et c'est pourquoi ce concert du Nouvel An sur la chaîne Inter était retransmis en direct depuis Moscou. Alors en Ukraine, cela a fait grincer beaucoup de dents. La polémique a tout de suite pris de l'ampleur et en premier lieu sur les réseaux sociaux, certains accusant Inter d'avoir craché au visage de tous les Ukrainiens. Le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense, Oleksandr Turkinov, a demandé dès le 2 janvier que la licence de la chaîne lui soit retirée pour son ignorance explicite des intérêts nationaux de l'Ukraine.
Et en quoi la chaîne Inter est-elle le porte-voix de Moscou ?
Eh bien, la chaîne a été créée en 1996 et s'est caractérisée depuis par un ton très russophile et une opposition farouche au mouvement démocratique en Ukraine, ce qui a été particulièrement évident pendant la révolution Orange de 2004 et la révolution de la dignité en 2013-2014. À la tête de Inter, on trouve une nébuleuse de personnalités proches de l'ancien président Viktor Yanukovych et du pouvoir russe actuel. Par exemple, Viktor Medvedchuk, qui est le chef de file très controversé d'un mouvement minoritaire pro-russe. Eh bien, le parrain de sa fille, c'est Vladimir Poutine lui-même.
Mais la chaîne Inter est quand même une des chaînes les plus regardées en Ukraine.
Oui, elle est une des trois chaînes de télévision les plus populaires du pays. La direction, en publiant son communiqué d'explication du concert du Nouvel An, s'est d'ailleurs félicitée que celui-ci ait été le plus regardé en Ukraine, avec 11 millions de téléspectateurs. Inter est le plus gros diffuseur de séries russes et le troisième diffuseur d'émissions produites en Russie, dont les Ukrainiens sont particulièrement friands. Alors même si certains dénoncent un impérialisme culturel russe, il s'agit quand même de produits extrêmement populaires, comme l'a été le concert du Nouvel An. Il y a donc une frontière subtile à définir entre défense des intérêts nationaux et censure, entre protection de la culture ukrainienne et propagande. Et on voit que sur cette question, comme sur d'autres, les autorités ukrainiennes cherchent leur marque.
Merci Sébastien Gobert à Kiev, à très bientôt. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site et sur Facebook. Demain, reportage en Allemagne, après la marche républicaine en France. Le face-à-face entre la manifestation anti-islam à Dresde, le mouvement Pegida, et ceux qui dénoncent la récupération des attentats français à Berlin. À demain.
Salut.
Vous m'en direz des